Alexis Sanson. Que Québec se lève.
La chronique historique de François Terrien. Voici le studieux Sieur de Terrien.
Oh, que oui, François Terrien, passionné d'histoire, dit le Sieur de Terrien. Bonjour, François.
Comment ça va, les gars?
Bien. Ça va bien, quoique je suis un petit peu... je suis déjà un peu nostalgique, puisque la grande série sur les architectes de la ville de Québec tire à sa fin.
C'est la dernière, oui.
J'étais pas prêt à ça, mais regarde, j'ai pas le choix.
Qu'est-ce que tu veux? Ça fait trois, là, à un moment donné, il faut passer à autre chose un moment donné. Il
faut accepter notre sort.
Et voilà.
Et aujourd'hui, tu nous parles des architectes Georges-Émile Tanguay et Eugène-Étienne Taché.
Oui, c'est probablement les deux derniers qui ont eu une influence majeure sur le bâti de Québec. Le bâti de Québec, là, on a fait un petit peu là, la période entre 1820 et 1920. Là. C'est les 100 ans là, où l'architecture a beaucoup changé à Québec et qui le cachet qu'on a, là, ben, il date de cette période-là. Et Georges-Émile Tanguay et Eugène-Étienne Taché, c'est un petit peu les deux derniers. On va commencer par Taché. C'est le plus âgé des deux. Il naît en 1836 à Saint-Gervais-de-Bellechasse. Oui. Lui, c'est le fils d'Étienne Pascal Taché. C'est un patriote en 1837.
Ah bon?
Mais aussi père de la Confédération 30 ans plus tard, en 1867, lorsque le Canada tel qu'on le connaît est officiellement créé. Ce dernier détail est important pour la suite, vous allez voir. La carrière d'architecte d'Eugène-Étienne Taché est courte, mais elle est quand même assez spectaculaire. On lui doit trois bâtiments d'exception. Le manège militaire en 1885, qui a brûlé en 2008 puis qui a été reconstruit pas mal à l'identique. L'ancien palais de justice, maintenant le ministère des Finances. L'édifice Gérard D. Lévesque.
Derrière l'hôtel de ville?
Oui. En fait, non, il est en face du... Il est de biais avec le château Frontenac. Quand tu descends la rue Saint-Louis, là, puis tu arrives au château Frontenac, à votre gauche, là, de biais, là, c'est ça, c'est l'édifice Gérard D. Lévesque, ancien palais de justice jusqu'en 1983, si ma mémoire est bonne. Puis on l'a transformé en ministère des Finances après, mais c'est un très, très beau bâtiment. Et sa grande œuvre, c'est l'hôtel du Parlement, l'Assemblée nationale, qu'il a construit entre 1877 et 1886.
Ça, comme toi, c'est quand même, c'est trois monuments à la ville de Québec.
Oui, c'est ça. Il n'y en a pas fait beaucoup, mais il s'est organisé pour que ça frappe.
Ça soit marquant.
Oui, c'est ça. L'hôtel du Parlement est remarquable à plus d'un niveau. C'est un bâtiment du style Second Empire. Je vous ai expliqué un petit peu qu'est-ce que c'était là, lorsque je vous ai parlé des Baillargés et de Joseph Ferdinand Pichet. Ce sont les Français qui ont inventé ce style-là, si vous voulez. Très populaire dans les années 1850. Puis les architectes de Québec sont allés voir comment ça se passait. Ils sont tombés en amour. Il y en a une couple qui sont tombés en amour avec le style, dont lui. Alors, le style Second Empire avec les toits mansardés, là, c'est pas mal ça. Puis c'est ça qu'il a fait avec l'hôtel du Parlement. Puis sur la façade, Taché a enclavé des statues de personnages importants dans l'histoire du Canada. Entre autres, là, vous avez Montcalm et Wolfe de chaque côté de la devise « Je me souviens ». On va revenir sur cette devise-là. Et à la verticale de chaque côté, vous avez un petit peu l'histoire de Québec puis l'histoire de Montréal avec Cartier, Champlain et Monseigneur de Laval du côté de Québec. Et de l'autre côté à droite, vous avez Maisonneuve, Jean-Jacques Ollier, qui est le fondateur des Sulpiciens, et Lévis, le dernier vainqueur français d'une bataille en Nouvelle-France. Puis la fameuse devise, je me souviens, c'est lui qui a créé ça. Il a décidé de mettre ça.
Hey, ça, là, OK, c'est important, mesdames, messieurs. Écoutez bien ça, parce que à chaque fois qu'on demande à n'importe qui a inventé la devise « Je me souviens », la réponse, c'est « Je me souviens pas ». C'est tout le temps ça, mais c'est vrai.
Ben, c'est Eugène-Étienne Taché.
Puis pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait faire
avec
ça?
En fait, il l'a jamais expliqué. C'est ça là, qui est un petit peu bizarre. Il a mis ça là, « Je me souviens ». Puis il l'a pas expliqué, mais on peut deviner un petit peu la fresque historique c'est dans ça. Le fond de la bâtisse ça, avec les statues.
Le devoir de mémoire, les personnages marquants.
Ben, c'est ça, parce que je vous en ai parlé d'une coupe, mais il y en a d'autres, des gouverneurs importants de la Nouvelle-France. Il y a Frontenac, tantôt, je vous ai dit Monseigneur de Laval tantôt, mais c'est pas Monseigneur de Laval, c'est Frontenac qui est en ligne avec Cartier-Champlain, puis... Cartier-Champlain, c'est ça.
Cartier-Champlain.
Puis Montcalm aussi, de ce côté-là. Et il a mis ça là, lui. Puis il a rien dit, puis de fil en aiguille, c'est devenu la devise du Québec. Pas immédiatement, là, mais tranquillement, on a décidé que ça deviendrait. D'ailleurs, cette devise-là se retrouve aussi sur l'édifice du ministère des Finances. C'est moins flamboyant, là, le ministère des Finances. Mais d'un côté, il a mis Jacques Cartier et de l'autre côté, Champlain. Puis dans le milieu, t'as la devise « Je me souviens » qui est là également. Puis... il est un peu aussi responsable de la du dessin du château Frontenac. Okay. Lui, il a dessiné les plans préliminaires du château Frontenac, mais ça a été bonifié par l'architecte américain Bruce Price, qui a rendu l'édifice un peu plus pittoresque. Un peu comme on avait fait, je vous avais parlé lors des Baillargés, la séquence sur les Baillargés, le premier de la série, que lui, les murs, c'était le gouverneur Dufferin, lui, il voulait garder les murs, puis il avait engagé un architecte européen qui avait donné le côté pittoresque, un peu moyenâgeux, ouais, qu'on voit des murs de fortification de la ville de Québec. Ben, Price, il a voulu faire ça un petit peu aussi avec le château Frontenac, ce que Taché avait pas vraiment fait. Alors quand même, là, quand on regarde la carrière d'Eugène-Étienne Taché, peu de bâtiments, mais des bâtiments marquants.
C'est ça.
Ensuite vient Georges-Émile Tanguay. Lui, il est un petit peu différent. Il est né en 1858, mort en 1923. C'est l'homme derrière l'Hôtel de Ville de Québec, construite en 1903. Okay. L'édifice du Daily Telegraph sur la rue Buade, 1907. L'édifice Pamphile-Lemay, qui est le voisin de l'Hôtel du Parlement, construit en 1910. L'usine de la Dominion Corset sur le boulevard Charest, c'est lui en 1911.
Ah ouais.
Et l'hôpital Laval en 1918. C'est quand même une pas pire carrière, des bâtiments importants. Tanguay était un des rares à s'inspirer du style américain qu'on disait de l'école de Chicago. C'est que Chicago était victime d'un important incendie autour des années 1870. Puis il a fallu reconstruire la ville pratiquement au complet. Alors, il y a un style architectural qui s'est développé là-bas. Puis Tanguay, lui, il a aimé ce genre de style-là. Alors, il l'a reproduit un peu ici. L'hôtel de ville, c'est pas vraiment le style de Chicago. Il y en a un peu, mais le style de Chicago, c'est beaucoup des édifices en briques. Et évidemment, l'hôtel de ville, il est pas en briques.
Non.
Mais l'édifice de la Dominion Corset sur Charest, c'est un édifice en briques.
Je le replace pas, celui-là, le Dominion Corset.
Il est au coin, lui, de... Est-ce que c'est de la couronne?
Dorchester,
hein, c'est ça. Alors,
c'est-tu là où est-ce qu'ils construisent un nouvel hôtel? Justement, au Charest, Dorchester. Ah non, OK, de l'autre côté. Oui, c'est ça.
Alors, c'est un édifice qui a été l'usine de la Dominion Corset pendant un bon bout de temps. L'usine a fermé, la ville de Québec a racheté cet édifice-là.
L'université aussi. Je pense qu'il y a l'école des arts visuels
qui est
déménagée.
C'est ça, c'est l'école des arts et métiers. C'est ça, c'est l'école des arts et métiers qui est là.
OK.
Ouais. Alors, ça, c'est en briques. Oui, je replace.
Alors, ça, c'est un bâtiment de style de l'école de Chicago, comme on a dit, qui a été construit par Georges-Émile Tanguay. Puis l'édifice du Daily Telegraph, il n'est pas tellement connu, lui, parce qu'il est à côté de... En fait, il est de l'autre côté de la rue Buade par rapport à la basilique cathédrale de Québec.
Mm-hmm.
Puis il est quand même assez imposant, mais comme tu as la basilique à côté, tu as tendance à pas le voir. Mais il est dans le style de l'édifice de la Dominion Corset, mais en beaucoup moins gros. Les briques sont pas colorées. Là, c'est un édifice foncé qui est... puis il y a un dôme au-dessus de cet édifice-là. Il y a 4 ou 5 étages, là. Sur la rue Buade, là, c'est un des plus... Un des plus élevés.
Quand c'est tout des commerces au rez-de-chaussée maintenant.
Oui, c'est ça. C'est tout des commerces. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en haut. J'ai essayé de voir. Je suis allé me promener là cette semaine. Puis j'ai pas, réussi vraiment à voir qu'est-ce qu'il y a au-dessus. Mais à l'époque, c'était le Daily Telegraph, le journal anglophone de Québec, qui s'était installé là. Le propriétaire Frank Carrell.
Hey, mais il va falloir que j'y aille parce que c'est drôle. Je regarde les images là, puis j'ai jamais vu. J'ai l'impression d'avoir jamais vu. Pourtant, c'est tout promené dans ce secteur là. Mais il va falloir que j'y retourne parce que c'est une très très belle bâtisse. J'ai l'impression de l'avoir jamais vu.
Ben moi non plus parce que dans le premier épisode là, que je vous avais présenté des architectes, je suis allé me promener dans ce secteur-là. C'est le secteur du séminaire, entre autres. Puis cet édifice-là, je ne l'avais pas vraiment vu. Alors, en étudiant Georges-Émile Tanguay, là, j'ai vu qu'il y avait ça. Alors, je suis allé voir cette semaine. Puis effectivement, c'est un très, très bel édifice.
Oui.
Puis lui, finalement, il a terminé sa carrière en tant que responsable des travaux de reconstruction de la basilique cathédrale de Québec, justement, qu'on parlait, là, qui a été incendiée en 1922. Alors, donc, avec cette série-là, là, on a fait... Il y a eu d'autres architectes, évidemment. Là. C'est pas les Baillargés, Joseph-Ferdinand Piché, Eugène-Étienne Taché et Georges-Émile Tanguay. C'est pas les seuls, mais ça a été des architectes marquants dans la ville de Québec qui ont modifié le bâti de la ville pendant une centaine d'années, puis ce qui fait que la ville a le cachet qu'elle a aujourd'hui.
puis qui fait aussi qu'il y a tant de gens partout dans le monde qui viennent à Québec. Quand il n'y a pas de pandémie, là, c'est sûr, ça n'a pas de chance. Mais qui fait, non, mais c'est vrai que Québec est reconnu comme étant une ville où on dit, hey, mais c'est l'histoire, tu sais, des années 1600. On réalise que, dans le fond, c'est entre 1820 puis 1920.
À peu près, ouais.
Que les bâtisses, tu sais, les grosses et grandes bâtisses qu'on connaît, Assemblée nationale, l'Hôtel de Ville et autres, on a l'impression que c'est en même temps que les murs. Mais pas du tout, finalement.
Non.
Là, tu sais.
Ça a évolué avec le temps. Je veux terminer en vous disant quelques trucs, là, des endroits à marcher à Québec là, pour voir ces bâtiments-là.
Ouais.
Le complexe du séminaire de Québec, ça, c'est quelque chose. Les plus vieux bâtiments de Québec s'y trouvent. L'édifice de la Procure, le plus vieux, et du Parloir construit peu après, c'est 1675 que ça a été construit. Évidemment, là, ça a été modifié depuis. Puis il n'y a pas grand-chose d'original, sauf les voûtes de Monseigneur de Laval se retrouvent dans un des bâtiments. On a gardé ça. Ça fait quand même plus de 250 ans, ces voûtes-là. Le plus récent est celui du pavillon des classes. C'est celui sur la rue Sainte-Famille. Il y a le musée de l'Amérique française là, qui est au coin. Puis quand vous descendez, là, il y a un grand, grand pavillon. Les classes du séminaire de Québec maintenant, l'école Monseigneur de Laval, François de Laval, en fait, sont là. Ça a été construit autour de 1919-1920. Entre les deux, il y a les édifices de l'université qui sont très, très beaux et les chapelles. La rue du Parloir et Donnacona, ça, c'est les Ursulines. C'est un complexe qui est moins impressionnant que celui du séminaire, là, pas mal moins, mais il est très coquet et dans un raccoin très tranquille du Vieux-Québec. On n'a pas tendance à passer là. Dans le fond, on descend la rue Saint-Louis, puis du Parloir, c'est à votre gauche.
Ouais,
alors, okay. Vous allez là, puis c'est l'entrée des Ursulines est là. Il y a le musée des Ursulines et il y a aussi la maison qui a été affublée du surnom de la plus petite maison des Amériques. C'est le 6 rue Donnacona. C'est une maison qui est comme enclavée entre le musée des Ursulines. Puis de l'autre côté, il y a une espèce de maison en triangle. Puis le 6 Donnacona, il est comme en retrait. Il est comme pris dans un raccoin. C'est vraiment particulier. Alors, cette maison-là, ça vaut la peine d'avoir la façade. C'est plus grand en arrière, dit-on, là. Mais quand on regarde juste la façade, on dit, tabarouette, il y a une salle de bain, une cuisine, puis c'est pas mal tout, là. C'est vraiment très, très petit. Les rues Saint-Louis puis Saint-Ursule, évidemment, oui. C'est à pas manquer. La maison Jacquet, qui est maintenant le restaurant aux anciens Canadiens, c'est une des plus vieilles à Québec. Il y a beaucoup de demeures de différents styles qui se côtoient. On voit l'évolution de l'architecture de Québec pendant la fameuse période dont je vous parle, oui. 1820-1920. Les fameuses portes cochères qui font le côté unique de Québec se retrouvent dans ces rues. Le Saint-Louis, Saint-Ursule, surtout Saint-Ursule, il y en a pas mal. Et si le sujet de l'architecture de Québec vous intéresse, le maître, c'est Luc Nopen, qui a été professeur à l'Université Laval. Maintenant, il est professeur, je pense qu'il est encore professeur, mais il a déménagé à Montréal. Il est allé enseigner à l'Université de Montréal, si je ne m'abuse. Là. Quand vous fouillez sur Internet, là, vous avez beaucoup d'écrits.
Luc
Nopen. Oui. Luc Nopen, puis Lucie K. Morissette, là, les deux se sont mis ensemble pour faire un peu l'histoire architecturale de Québec. Si vous voulez en savoir plus, là, ces deux noms-là, retenez ça. Si vous voulez googler, là, vous allez trouver plein de documents concernant l'architecture de Québec.
Ouais, il enseignait justement à l'École des arts visuels de Luc Nopen. Ma mère travaillait là.
OK. Ah bon? Mm-hmm. Ça fait que ça, c'est pour les lectures, si jamais ça vous intéresse. Et si plutôt c'est l'histoire qui vous intéresse, vous réécoutez les podcasts de François qui est avec nous à chaque semaine sur le site du FM93.com. Il y en a plein, les personnages célèbres de la Ville de Québec. On termine à l'heure actuelle la séquence sur les architectes marquants de la Ville de Québec. As-tu déjà choisi de quoi tu nous parles la semaine prochaine?
Ben, je pense que le 50e anniversaire de la crise d'octobre approche à grands pas.
Oui, ben oui, c'est clair.
Ça commence officiellement avec l'enlèvement de James Cross le 5 octobre 1970, mais il s'est passer des choses avant ça. Alors, on va faire un peu l'histoire de la crise d'octobre, mais aussi du FLQ. Parce qu'on parle beaucoup de la crise d'octobre, mais le FLQ existait depuis plusieurs années avant 1970. Alors, ça va être ça la semaine prochaine.
Merci, François. C'est toujours extrêmement intéressant de t'écouter. C'est super, super le fun. Et puis, ça vous tente, là. T'sais, hier, on l'a fait avec Alexis. Alexis est extrêmement heureux. Envoyez un petit texto juste pour dire, « Hey, François, c'est le fun, c'est bon, on t'aime, on aime. »
Ben oui, c'est important, ça.
Un petit texto 25226. Après ça, je vais les envoyer. Il va pouvoir les faire laminer, les faire encadrer, oui. Puis les mettre dans son salon, comme ça, dire à toute sa famille, « Regardez! » Comme un chien extraordinaire.
Les gens m'aiment.
Oui, regardez, les gens m'aiment.
Eh bien, si vous avez des suggestions aussi, gênez-vous pas.
Ah, ça aussi, oui. Ça aussi, accessoirement. Si vous avez des suggestions, mon François, ça a donné lieu à plein de chroniques. Auditeurs en passant. Ça fait que vous êtes toujours invités à le faire. En envoyant un petit texto au 25226. Le sieur de Terrien, merci.
Bye-bye.
Que Québec se lève. On prend une